La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Je vous l'avouerai candidement, c'est l'exaspération qui m'a poussé à organiser l'émission d'aujourd'hui. L'exaspération par rapport à quoi? Par rapport à la rectitude politique qui écrase plus que jamais notre vie publique et plus exactement notre système médiatique. Comment expliquer qu'elle parvienne autant à se renforcer? C'est vrai au Québec, mais c'est aussi vrai ailleurs en Amérique du Nord, comme c'est vrai en France. Pour en parler, j'ai invité deux intellectuels qui, chacun à leur manière, critiquent cette forme de tyrannie idéologique. D'abord, Martin Lemay, auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels « À la défense du Duplessis »,« L'union fatale » et « Lettres à un jeune gauchiste ». Dans chacun d'entre eux, il pourfendait justement le conformisme idéologique. Martin Lemay, bonjour.
Bonjour.
Et ensuite, David Leroux, qui tient le blog davidleroux.ca et qui s'impose à tous comme une des plumes les plus vigoureuses de la nouvelle génération intellectuelle. David Leroux, bonjour.
Bonjour.
Alors, messieurs, je vous pose tout de suite la question. Je l'ai dit, je l'ai confessé sous le signe de l'exaspération. J'ai le sentiment que ce qu'on appelle la rectitude politique, j'en propose une définition, la traduction du malaise devant ce qu'on pourrait appeler la modernité radicale sous le signe de la pathologie, c'est-à-dire qu'est-ce que la rectitude politique? C'est autrement dit, c'est la disqualification morale, psychiatrique, intellectuelle et politique de la dissidence en régime progressiste, j'ai l'impression qu'elle se radicalise ces années-ci, et peut-être devrais-je même dire ces mois-ci et ces semaines-ci. Alors, je vous lance la question, avez-vous l'impression que le débat public est empoisonné par la rectitude politique? Et si oui, comment vous situez-vous dans cette espèce de débat mal structuré, pour le dire poliment? Martin Lemay.
C'est clair qu'il y a une radicalisation d'un désir d'imposer certaines idées sur la place publique. Parce que, tout simplement, c'est que le dispositif, on pourra revenir plus tard à des définitions, si vous voulez, c'est que le dispositif progressiste, qui s'appuie, entre autres, sur la rectitude politique, se sent de plus en plus remis en question, que ce soit par des intellectuels, des écrivains, et même, au sacrilège, par le vote des peuples. On l'a vu en Angleterre dernièrement.
Avec le Brexit.
Avec le Brexit. On l'a vu aux États-Unis. On l'a vu aussi en Autriche. On va probablement le voir dans les prochaines semaines dans plusieurs élections en Europe. Au Québec, il y a eu aussi ici un sursaut en 2007 dans tout le débat des accommodements raisonnables qui a amené l'ADQ à la porte du pouvoir. Oui, il y a une réaction. Alors, les tenants de la rectitude politique, du politiquement correct et de cette idéologie mortifère réagissent de plus en plus. Ce qu'il faut faire, il faut absolument les combattre parce qu'ils se cachent en arrière de ça. Il faut le dire, et c'est pas d'être paranoïaque que de le dire. Ils se cachent derrière ça une dictature totalitaire qui, si on y prend garde, nous écrasera à plus ou moins brève échéance.
Je vous pose une question très particulière. Vous avez, on n'a pas évoqué les définitions, vous parlez de dispositif progressiste. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Bien, le dispositif progressiste, c'est que le progressiste qui est au pouvoir depuis 50 ans, suite les années 60, vous l'avez d'ailleurs, vous, bien exprimé dans un de vos livres, le multiculturalisme, religion politique, comment ce système-là, cette révolution, si vous voulez, nous est tombée dessus depuis 50 ans. Donc, le progressiste, contrairement à ceux qui ont eu le pouvoir avant, a mis en place tout un dispositif pour protéger son système, c'est-à-dire les cours, les tribunaux, les intellectuels, les universités, les médias, même les artistes. Les artistes, écoutez, s'il y a une catégorie de gens qui doivent se prévaloir de leur absolue liberté d'expression, ce sont bien les artistes, mais même eux, s'ils ne chantent pas la gloire de la diversité ou que sais-je, sont attaqués directement par le dispositif. Donc, quand je parle d'un dispositif, et ça, je dois reconnaître le génie du progressiste, d'avoir mis en place tout ce dispositif-là, d'une part, je l'ai écrit ici, permettez-moi de référer à mes notes, d'une part, chargé d'imposer ses dogmes, mais aussi de contrôler les termes du débat public et de punir les contestataires. C'est un peu, si vous voulez, le clergé d'avant 1960 qui gérait la morale, mais au moins, à cette époque-là, on savait de qui ça venait, et pour quelle raison cette morale-là nous a été imposée. Tandis que au niveau du dispositif progressiste, c'est moins clair un peu. On sait qu'ils veulent bannir des mots, en imposer d'autres, mais c'est moins clair un peu les raisons pour lesquelles. Mais c'est clair, je termine là-dessus en disant qu'ils ont le pouvoir depuis 50 ans, ils veulent le garder, ils ont créé un dispositif pour ce faire, et ils vont se battre jusqu'au bout pour maintenir, si vous voulez, leur pouvoir sur nous.
David Leroux, vous êtes, vous dirigez, vous publiez régulièrement des textes sur votre blog davidleroux.ca, vous collaborez à l'Action nationale, vous collaborez, vous écrivez souvent dans les grands journaux aussi. Vous êtes un intellectuel dans l'espace public. Je vous pose une question toute simple. Est-ce qu'il y a, selon vous, ressentez-vous des interdits idéologiques lorsque vous voulez vous mêler d'un débat public d'une manière ou de l'autre? Et si oui, que faites-vous de ces interdits?
Oui, effectivement, je ressens ces interdits très puissamment et je me fais un plaisir parfois un peu presque malsain à les transgresser.
Non, c'est un plaisir sain.
C'est un plaisir sain, oui. Voilà, c'est cathartique. Oui. Et je crois qu'il faut absolument les transgresser. Il faut libérer la parole, je crois, la parole politique au Québec, à tout le moins. On en a grand besoin actuellement. D'autant plus avec les événements récents qui sont passés. L'épouvantable tuerie à la mosquée de Québec a malheureusement donné libre cours à une espèce de phénomène gigantesque là, de culpabilisation des gens qui n'entrent pas justement dans la doxa progressiste, qui ne tiennent pas les propos qu'on doit tenir et que tout le dispositif dont Martin parle, le dispositif progressiste que ce dernier nous dit de... les mots que ce dernier nous dit de dire. Donc, j'aimerais par exemple revenir sur quelque chose que Martin a dit au sujet du dispositif. Donc, vous dites que les progressistes se sont emparés du dispositif.
Je vous interromps. Oui, on pourrait dire les gens plutôt de gauche, c'est vrai. Mais étonnamment, dans cette alliance progressiste, il y a les néolibéraux économiques.
Oui, absolument. Mais oui, puis si
étrangement.
Si on lit par exemple Jean-Claude Michéa qui a développé beaucoup cette thèse-là, effectivement, ce qui fait la puissance aujourd'hui de cette rectitude politique qu'on observe dans la société, c'est justement l'alliance qui peut sembler improbable au départ, mais qui, en réalité, a énormément de sens entre la droite économique et la gauche sociale.
David Leroux, je vous relance sur cette question. Vous parlez d'une alliance qui participerait à cette espèce d'hégémonie idéologique entre droite néolibérale et gauche sociale ou gauche identitaire.
Oui.
Quels sont les termes de cette alliance selon vous? Et ensuite, Martin Lemay, je vous relancerai pour savoir si vous voyez aussi les mêmes éléments qui se rassemblent dans ce dispositif. Mais David Leroux, quels sont les éléments qui caractérisent cette alliance, disons, entre la droite économique et la gauche identitaire?
Eh bien, si je vais un peu grossièrement, je dirais que c'est le mondialisme. Donc, cette espèce de d'un côté, la gauche identitaire, la gauche sociale va prôner une ouverture au monde, va condamner le repli sur soi, va condamner l'État-nation tel qu'on le connaît depuis quelques siècles. Ça fait très bien l'affaire de la droite économique, n'est-ce pas, qui, elle, jouit d'une ouverture des frontières parce que ça facilite, donc c'est le libre marché, effectivement. Donc, le terme... disons, la base, la pierre d'assise de cette alliance-là, c'est le mondialisme.
Donc,
c'est
le refus de l'État-nation.
Oui, exact. Le refus de l'État-nation, la dissolution des frontières nationales. On fait de la culture une espèce de grand... on parle de melting pot, on parle de multiculturalisme. En réalité, ce qu'on fait, si je peux vulgariser un peu, c'est qu'on walmartise la culture, si je peux dire. On la soumet aux forces du libre marché culturel, si je peux dire. Et finalement, c'est au plus fort la poche, hein? C'est ce qui se passe. Donc, on devine que qu'est-ce qui triomphera, c'est l'anglais, la langue anglaise. La culture américaine, culture populaire américaine, parce que évidemment, loin de moi l'idée de condamner la culture américaine dans son entièreté. Il y a de très, très grands écrivains, très grands cinéastes, très grands penseurs. Mais voilà. Donc oui, c'est le mondialisme, la dilution des frontières nationales.
Martin Lemay, on nous dit droite néolibérale et gauche identitaire. Ce sont les termes d'une alliance, selon vous? Et vous la décrivez de la même manière?
Oui, de la même manière. En fin de compte, que ces deux... gens qui théoriquement sont opposés veulent, c'est que les 8 milliards d'habitants sur Terre soient 8 milliards de consommateurs apatrides, dont le seul but dans la vie sera de s'émanciper du passé. Et quand je parle du passé, c'est même pas un passé de 400 ou 500 ans, c'est un passé même récent, s'émanciper de ses propres parents pour pouvoir, à 8 ans, 10 ans, 12 ans, être déjà un consommateur affirmé, sans attache nationale, familiale, religieuse, culturelle ou autre. Vous avez un candidat à la présidentielle française, Monsieur Macron, qui a dit tout récemment, il n'y a pas de culture française, il y a une culture de France et elle est diverse. S'il n'y a pas de culture française pour lui, c'est-à-dire qu'il y a aucune, toutes les cultures à travers le monde se valent, que
elles sont toutes interchangeables.
Surtout ça, vous avez raison d'insister là-dessus. Toutes les cultures sont interchangeables. Et si la France n'a pas de culture, aucun pays n'en a une, parce que tout le monde reconnaît justement la force et la puissance de la culture française. Donc, cet homme qui, je le rappelle, est candidat à la présidence de la France.
Dit, et qui pourrait bien gagner.
Et qui pourrait bien gagner, effectivement. Alors, il est, si vous voulez, la synthèse du progressiste dont on parle, parce qu'à un moment donné, il faut donner des exemples. Et ça, pour moi, Emmanuel Macron est l'exemple parfait du progressiste du 21e siècle, apatride, sans culture, dont le seul but est que l'argent puisse circuler à travers le monde le plus librement possible.
Et il y a tout un appareil derrière ça, il y a tout un appareil de pouvoir qui est derrière cette idéologie-là, et c'est extrêmement préoccupant de l'observer. Hein. On parlait tout à l'heure des artistes, l'université est un endroit aussi où, ma foi, et je crois qu'il faut le dire et il faut le dénoncer. Vous me demandiez tout à l'heure, Mathieu, qu'est-ce qu'on doit faire face à cette hégémonie progressiste, si je peux dire. Bien, une des choses à faire, c'est de dénoncer sa mainmise sur certains lieux de pouvoir. Et l'université, donc, est un endroit qui est aujourd'hui, si j'ose employer le mot, presque corrompu par cette idéologie-là. La semaine prochaine, le jeudi qui vient, l'émission Enquête présente un document sur la montée du nationalisme et, disons, du patriotisme et du populisme en Occident. Et hier, je crois, Luc Chartrand sortait un petit preview, si je peux dire, de son reportage. Et il citait, par exemple, une étude universitaire qui pointait un commentateur politique en disant « Voilà, l'étude universitaire a déclaré que ce commentateur-là est raciste parce qu'il n'est pas antiraciste. » Alors, l'université au service de l'hégémonie progressiste, oui, tout à fait. Il faut faire attention à ça, il faut le dénoncer.
Permettez-moi d'ajouter, on parle du présent, mais cette rectitude politique règne aussi dans le passé. C'est-à-dire que des individus, des événements seront analysés aujourd'hui dans la lorgnette des dogmes progressistes, c'est-à-dire le bien.
Oui, une espèce de relecture.
Une relecture du
anachronique
passé,
du passé. Donc, on relira Proust, Balzac ou Flaubert pour savoir s'ils ont été forts.
Je donne un exemple concret. C'est arrivé il y a quelques années aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut le dire, c'est le haut lieu de cette folie. Un professeur d'université a amendé littéralement un ouvrage de Mark Twain en y changeant les mots. Donc, il prend un trésor de la littérature américaine, écrite autour de 1860, et propose une republication de ce trésor, mais en y changeant les mots, car les mots aujourd'hui, ces mots-là aujourd'hui ne sont plus acceptables.
N'a-t-on pas fait un peu la même chose? Ben, on n'a pas changé les mots, mais n'a-t-on pas condamné Tintin il y a quelques années en Europe?
Mm-hmm. Oui, Tintin au Congo.
Tintin au Congo,
tout à fait. Et donc, c'est, vous savez, c'est un peu, les gens qui nous écoutent se disent, on exagère peut-être un peu, malheureusement, j'aimerais ça être exagéré et être un petit peu fanfaron et faire des blagues et des hyperboles, mais malheureusement, c'est une réalité. Donc, il faut même à l'avenir se méfier pour les passionnés d'histoire comme moi et il y en a plusieurs. Il faut maintenant se méfier des articles ou des livres d'histoire que l'on va lire, car ils seront chargés, eux aussi, de politiquement correct. Donc, on impose à Louis XIV, on lui impose aujourd'hui une analyse de valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui et qu'on discute là à quelqu'un qui a vécu au 17e siècle. Je veux dire, c'est à sa face même. Ça n'a aucun sens.
Et je pense à
David Leroux.
Oui, je pense à d'autres exemples. Le gouvernement du Canada est un grand organe ici de propagande de cette idéologie, cette rectitude politique. Et on a fait ce que vous parliez de Mark Twain, on a fait exactement, on a réservé ce traitement-là à l'hymne national, si je me trompe pas, en mai dernier, en changeant les paroles pour les rendre, on voulait les rendre, je crois, neutres du point de vue du genre ou quelque chose comme ça. Et un exemple peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais le parc national Forion en Gaspésie, il y a un lieu au parc Forion qui s'appelle de tout temps, et ça s'est toujours appelé comme ça, Lance aux Sauvages. Ça s'est toujours appelé comme ça. Et il y a, je me souviens, 10 ans de cela à peu près, l'affiche avait été changée qu'on arrive à Lance aux Sauvages. Maintenant, c'est Lance aux Amérindiens. Alors, je demande quand Lance aux Premières Nations, j'imagine, ça viendra. Donc, c'est pas simplement l'histoire, hein, c'est le réel qu'on va biffer. Mm-hmm. Hein, dans la toponymie, on va biffer certains noms pour les rendre acceptables aux yeux de la rectitude politique d'aujourd'hui.
Alors, vous nommez tout ce qu'on pourrait appeler le contrôle du vocabulaire. Hein. Orwell nous avait mis sur une bonne piste là-dessus, Miloche aussi, c'est-à-dire le contrôle du vocabulaire est par définition un élément politique. Qui définira, par exemple, qui est radical et qui est modéré? Et qui définira qui est phobe et qui ne l'est pas? Qui définira ce qui est un dérapage et ce qui ne l'est pas? Bon, alors on voit tout ça. Par ailleurs, il y a dans nos sociétés une forme de contestation qui monte ici et là et qu'on nomme souvent, à tort ou à raison, populisme. Ce sont souvent des partis protestataires ou alors ce sont des mouvances protestataires. Pourtant, quelque chose s'est passé en France ces jours-ci et puis qui me semble intéressante, c'est que pour la première fois, faut dire au Brexit, ça avait été présent aussi, mais pour la première fois depuis longtemps, une critique conservatrice, transgressant mais sans hystérie, sans côté histrionique, sans protestation vulgaire ou grossière, donc sans le côté mégalomane de Trump, sans le côté qui est quelquefois sur la forme de la jacquerie populaire de populisme européen. On avait François Fillon qui a décidé d'incarner une forme de conservatisme affirmé mais non histrionique. Bon. Et ce qu'on voit, c'est que sur des prétextes judiciaires, sous des prétextes nombreux qui ne sont pas sans fondement peut-être dans le rôle de la morale, mais voilà. Alors on voit sa candidature se faire torpiller incroyablement, comme si on n'acceptait pas la possibilité qu'un acteur politique puisse porter ailleurs que dans les marges protestataires un discours de contestation de la rectitude politique. Est-ce qu'on peut voir dans ce qui arrive à ce moment à François Fillon, nonobstant les questions d'éthique qui lui sont reprochées et puis qui sont pas sans fondement, est-ce qu'on peut voir dans le traitement réservé à sa candidature quelque chose d'un exemple de cette espèce de répression, entre guillemets, de la dissidence lorsqu'elle s'exprime au cœur du système de pouvoir?
Le dispositif dont je parlais plus tôt qui est en marche. Donc, dès que le système se sent menacé par quelqu'un de sérieux qui n'est pas à ses marges,
qui n'est pas un protestataire d'opérette.
À qui on peut pas accoler, et on pourra y revenir aussi dans notre discussion, le fameux extrême droite qui sert à peu près à tout aujourd'hui, à qualifier à peu près tous les mouvements politiques. Alors oui, effectivement, très rapide. Il y a un article de journal, et le lendemain, sinon la journée même... Dans le canard enchaîné, il y a un article de journal disant que son épouse avait profité de telle chose. Monsieur Fillon est en politique depuis 30 ans, il a été premier ministre. Comment ça se fait que personne ne s'est aperçu de ça avant? Mais toujours est-il, les journalistes ont fait leur travail. Mais là, immédiatement, là, le système judiciaire se membrane. Et évidemment, moi qui ai été en politique, quand vous avez...
Vous avez été député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, vous avez été chef de l'opposition à l'hôtel de Ville de Montréal, vous avez été conseiller municipal et maire de Ville-Marie. Oui.
Alors, dès que, effectivement, vous avez des enquêtes sur vous, vous êtes en politique, ça devient très difficile de vous concentrer sur votre campagne électorale et de vous défendre à tous les jours, parce que là, à ce moment-là, les médias sortent des accusations tout le temps, vous devez vous défendre constamment. Bref, vous êtes littéralement plus capable de faire votre campagne électorale. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver à M. Fillon, mais malheureusement, il y a des gens... Est-ce que c'est venu de l'intérieur ou de l'extérieur, cette cabale-là en politique, tout est possible? Il reste que... Moi, j'ai des craintes. Au-delà de l'individu qu'est M. Fillon, au-delà des idées qu'il porte, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, peut avoir impôt Revenu Québec aux trousses. Tout le monde, à un moment donné, peut avoir la Commission des droits de la personne aux trousses. Donc, cet exemple-là qui vient de loin et de haut, et annonceur de catastrophes qui, moi, m'effraient, très sincèrement, qui, moi, me font peur, parce qu'à l'avenir, tous ceux qui voudront transgresser le système, tous ceux qui attaqueront directement le système, peuvent devenir, à terme, des victimes de la cabale judiciaire, médiatique ou autre. Je termine rapidement en disant, M. Trump mérite évidemment tous les colibets, à peu près tous les colibets. Il reste qu'il y a une hystérie qui l'entoure, qui est difficile à comprendre. Pour moi, un média, c'est la distance critique. Et face à M. Trump, les médias, partout en Occident, ont perdu complètement la mesure. Et ça aussi, pour vivre ça, faut être fait fort. Là. Pour vivre constamment sous la critique des médias, faut aussi être...
Et les médias n'ont aucune,
David Leroux.
Les médias n'ont aucune distance critique. Aucune distance critique par rapport à Donald Trump et par rapport à bien d'autres de ces mouvements dits populistes, politiques populistes. Mais je veux attirer l'attention sur quelque chose. On parle des médias, on parle d'une hégémonie progressiste dans la société, mais je crois qu'il faut faire attention. Est-ce que le peuple mord à l'hameçon? Aux États-Unis, il semblerait que non. Il semblerait qu'il y ait à peu près, grosso modo, 50% de la population, un peu moins, qui n'est pas mordu à l'hameçon, comme en Angleterre. Et c'est à se demander, à la limite, si cette diabolisation, cette déconnexion complète de l'élite médiatico-intellectuelle ne joue pas un grand rôle dans la montée de ces mouvements populistes-là.
Mais permettez-moi de vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins quelque chose d'absolument malheureux à ce que la critique du politiquement correct soit incarnée, par exemple, aujourd'hui, par une figure aussi inquiétante, instable, on pourrait multiplier les termes qui ne me semblent pas exagérés, que Donald Trump? C'est-à-dire, est-ce que devant le politiquement correct qui peut être étouffant, on en parle ici, est-ce qu'on n'est pas devant, donc une forme de politiquement correct radical, est-ce qu'on n'est pas devant une forme de anti-politiquement correct, caricatural, qui lui-même porte ses propres dérives, ses propres malheurs.
Ah, oui. C'est immanquable.
Bartholomé.
C'est immanquable. Qui peut faire face à ça? Il n'y a pas un homme politique ambitieux, j'oserais dire, entre guillemets, normal, qui décide de transgresser le système, sain et sauf. J'en ai pas vu beaucoup encore.
Non, ça prend un... Excusez-moi la psychopope, mais ça prend du narcissisme très, 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 très pathologique, je crois, pour être capable de passer au travers de telles tempêtes. Effectivement, disons qu'on n'est pas dans la normalité selon le manuel psychiatrique DSM.
Alors, ça nous ramène à une question, puis on va en parler aussi au retour de la pause, mais on a encore 5 minutes avant la pause en ce moment. Pour affronter le politiquement correct, c'est-à-dire cette espèce de système qui pathologise, psychiatrise, pénalise les opinions dissidentes, est-il possible de l'affronter, je dirais, sereinement? Est-il possible de le critiquer en évitant cette montée aux extrêmes? Parce que je crois que dans la société qui se dessine, et je vous soumets cette question, est-ce qu'on a cru... C'était, par exemple, au début des années 90, Pascal Bruckner avait signé un livre qui s'appelait « Mélancolie démocratique », où il expliquait que finalement, les débats politiques aujourd'hui étaient tièdes, morts, technicisés, ennuyants. C'est Fukuyama qui nous disait « c'est la fin de l'histoire ». C'est Alain Meng qui nous parlait de la mondialisation heureuse. Et on croyait, dans tous ces cas, que la politique ne serait plus passionnelle, que la politique ne mettrait plus en scène des opinions très contrastées, qu'elle ne mettrait plus en scène des visions du monde s'opposant pour vrai. Est-ce que nous sommes, selon vous, dans cette espèce de conflit suscité par la rectitude politique, c'est-à-dire elle s'impose et elle est critiquée, est-ce que nous revenons en ce moment à une période politique plus passionnelle, plus polarisée, plus radicale, entre guillemets? Est-ce qu'autrement dit, on entre non pas dans seulement dans un épisode, mais dans une nouvelle époque où la politique retrouve sa charge passionnelle? Martin Lemay.
Oui. Mais ce qui est difficile, c'est que on sait pas qui attaquer. C'est difficile. En politique, vous avez deux adversaires. Ils s'attaquent, ils discutent, ils débattent, ben deux ou trois ou quatre. On sait d'où ça vient, on sait pourquoi. Aujourd'hui, nous, on est des intellectuels, donc c'est peut-être plus facile, c'est notre rôle de le faire. Mais quand vous êtes en politique, qui vous attaquez? C'est ça qui est difficile. Je reviens encore une fois, je m'excuse, au fameux dispositif qui protège le système, qui veut sauvegarder le système tel qu'il est. C'est ça qui... Donc, ça devient passionnel, mais c'est comme combattre un fantôme. À la rigueur, les anticommunistes avaient Staline. Au moins, ils pouvaient attaquer le roi communiste Joseph Staline. Mais aujourd'hui, on attaque qui exactement? On attaque le système.
C'est un monstre tentaculaire.
Oui, c'est ouais. Ça. C'est ça qui est... On peut attaquer... vous, M. Bocoté, vous avez attaqué le multiculturalisme. David attaque d'autres choses. Moi, j'attaque d'autres choses. Donc, c'est ça qui est difficile à cerner. C'est que oui, il y a de la passion... Mais l'adversaire se cache. L'adversaire est invisible et, je reprends les termes de David, l'adversaire est tentaculaire. Donc, c'est là que, malheureusement, notre passion peut pas vraiment s'assouvir directement donc, comme on peut le faire en politique.
Et je dirais, est-ce que ça ne risque pas, dans ce cas-là, une espèce de passion politique qui ne parvient pas à se canaliser dans un affrontement, je dirais, créateur, un affrontement où finalement des positions, des projets sont bien établis, une alternative est bien définie. Est-ce que ça ne risque pas de nous enfoncer dans une dynamique d'hystérisation du débat public? C'est-à-dire, si les passions ne trouvent pas à se canaliser dans un projet qui les civilise, un projet qui les encadre, un projet qui aussi les modère, parce que le propre d'un projet, c'est que ça nous dit on va cesser de tirer partout, on a un objectif politique d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un pourrissement du débat public dans la mesure où il n'est pas possible de structurer ce débat un temps soit plus calmement?
Absolument. On a l'impression qu'il faut tout casser, en réalité. C'est l'impression que donne ce monstre tentaculaire, c'est qu'il faut tirer partout. Il faut tout casser. Et c'est extrêmement dangereux, je crois, pour l'aspect créateur du débat politique, en fait. Ça prend... On revient un peu à ce qu'on disait tantôt, ça prend des individus comme Trump. Est-ce que c'est ça que ça prend vraiment pour replacer le débat politique aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être que ça prend des personnalités comme ça, mais cette éventualité-là ne me réjouit pas, mais absolument pas en tant qu'intellectuel. Je trouve ça très peu édifiant au niveau intellectuel, mais ma foi, sinon, comment procède-t-on? Je ne le sais pas.
Ben, c'est pour ça que je vous relance un instant sur l'exemple Fillon, sans trop s'attarder en France. La puissance de cette candidature, jusqu'à ce qu'elle s'effondre relativement, c'est que c'était une contestation non hystérique et non histrionique, non plus du débat public, des termes du débat public. Par exemple, dans une émission d'humour, François Fillon refuse à la fin de croire que c'est pas une émission, excusez-moi, une émission politique. Il refuse à la fin de l'émission politique de croire que c'est normal qu'une humoriste vienne transformer le tout sous le signe de la rigolade.
Il assume sa croyance, il assume son catholicisme.
Il assume son...
Ce qui, en 2016, 2017, est révolutionnaire, là.
Eh ben, alors, est-ce qu'on n'était pas justement devant, peu importe le sort qui arrivera à cette candidature, est-ce qu'on n'était pas devant un modèle autrement plus intéressant? C'est-à-dire, d'un côté, le contre-modèle Trump, qui, je pense qu'il va être suivi par personne. De l'autre côté, quelque chose comme une candidature, un conservatisme ferme, mais non colérique, pardonnez le terme. Est-ce qu'il est possible de porter cette posture dans l'espace public? Ou est-ce que nous sommes condamnés inévitablement à ce qu'elle dérape?
J'ai une réponse bête et méchante. M. Trump est président. M. Fillon ne sera probablement pas.
Alors, chers amis, sur cette réponse lapidaire, nous passons à la pause pour les quelques prochains instants. De retour après la pause pour ce débat sur la rectitude politique dans nos sociétés.
Radio-VM, au cœur de l'essentiel.
Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées. Je suis avec Martin Lemay et David Leroux pour une discussion sur cette réalité difficile à saisir, difficile à nommer et pourtant bien réelle qui est cette rectitude politique, ce politiquement correct, ce consensus progressiste, cette doxa hypermoderne sous laquelle nous vivons. Il y a plusieurs manières de la nommer et pourtant, je crois que ça nous réfère tous à une même réalité, c'est-à-dire cette espèce de climat de censure qui pèse d'une manière ou de l'autre sur le débat public. Et quand on parle de la rectitude politique, on peut quelquefois, pour mieux la comprendre, se tourner vers des auteurs oubliés. Ou, je pensais à Miloche, je disais tantôt, ou à des auteurs qui sont très souvent lus aujourd'hui, mais qui ne sont pas nécessairement bien lus, je pense à Orwell. Si on cherche à comprendre la rectitude politique aujourd'hui, je l'évoquais tantôt brièvement, mais je vous pose la question très directement. Quels sont les thèmes qui sont les plus explosifs lorsqu'on décide de toucher la question de la rectitude, lorsqu'on risque finalement de peser sur une des mines idéologiques ou symboliques propres à la rectitude politique? Quels sont les thèmes qui sont balisés, interdits?
Martin Lemay. Le dispositif progressiste dont je parle depuis tantôt, pour moi, il se base, c'est une hypothèse de réflexion, là, et je la partage, il se base sur trois thèmes essentiellement, le bien, l'égalité et la diversité. Pour moi, c'est les trois thèmes.
Décrivez-nous ça.
Alors, le bien, c'est évidemment la société en général, on veut le bien, mais pas au sens religieux du terme, pas au sens de notre catholicisme passé, mais au sens bien présent, c'est-à-dire le bien, c'est la bonne nourriture, faire de l'activité physique. Avant, c'était nos parents qui nous apprenaient ça. C'était notre entourage, l'école qui nous apprenait à lire, évidemment, et toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est une responsabilité de l'État de faire en sorte qu'on mange bien. L'État avait d'interdire les boissons gazeuses et tout ça. Bon, bref, le bien au sens où on veut votre bien.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'État
mais
qui
pas le
se
bien
substitue
moral.
Est-ce que c'est l'État qui se substitue aux autorités morales
tout à fait.
Sur le mode thérapeutique?
Tout à fait, avec des campagnes de sensibilisation, des interdictions. Donc, le premier élément pour moi est le bien, et ça, vous parliez d'auteurs, anciens auteurs, même s'il est récent, pour moi, c'est Philippe Murray. Philippe Murray a bien compris le bien qui est voulu par le dispositif. Le deuxième, c'est l'égalité. C'est-à-dire que on sait que les hommes sont très divers, très diversifiés, mais le système abolit ces différences pour faire en sorte que ce soit à l'école, dans les sports ou à la culture, non seulement qu'on ait tous les mêmes chances, mais qu'on puisse avoir tous les mêmes résultats. Le meilleur exemple, c'est l'école. Moi, j'étais très moyen à l'école. Il y avait des gens à l'école qui étaient très bons. Mais tant mieux pour eux. Ils sont aujourd'hui médecins, avocats ou ingénieurs. C'est parfait, c'est merveilleux. Mais l'école ne veut plus ça. L'école veut faire en sorte que tous soient égaux.
Votre propos est terrible pour vous. Donc, vous n'étiez pas très bon à l'école. Donc, vous n'êtes devenu que député et
écrivain. Exactement. Troisième chose, là, les gens le connaissent. Vous, M. Bocoté, écrit là-dessus beaucoup. C'est la diversité. Et là, c'est l'immigration. On ne peut remettre en cause en aucune circonstance, les bienfaits de l'immigration. On peut pas dire que quelquefois vous savez, il y a des difficultés, quelquefois ça amène des tensions, quelquefois des incompréhensions. Ne serait-ce que douter des bienfaits de l'immigration et du multiculturalisme, vous devez immédiatement être psychiatrisé, vous êtes malade. Bref, ce sont le bien. L'égalité et la diversité sont pour moi les trois thèmes chéris par le système et qui est sous aucune considération permis à qui que ce soit de les remettre en question.
Je dirais l'égalité.
David Leroux.
Je dirais l'égalité, ça me parle particulièrement ce que vous venez de dire, Martin, sur l'égalité. Je crois peut-être que c'est la pierre d'angle, en fait, de tout ce système-là.
Quand vous dites égalité, vous pensez à l'égalitarisme.
Oui, l'égalitarisme, exactement, oui. L'égalitarisme. Vous parliez de l'école, hein? Évidemment, tout le monde est conscient. Tout le monde, en s'ouvrant les yeux, c'est très facile de voir que tout le monde n'est pas égal, qu'il y a des inégalités inhérentes à l'existence humaine. Il y a des inégalités entre les individus. Mais l'école se donne un rôle, par exemple, et pas que l'école, hein? L'État aussi va se donner un rôle pour égaliser, justement, les citoyens. On considère l'inégalité naturelle comme une injustice fondamentale de la condition humaine et on va vouloir égaliser les gens. Et la diversité et le bien tel que vous l'entendez, c'est-à-dire imposé par l'État à travers des politiques, bon, bien manger, bien bouger, etc. La diversité et le bien, donc, sont des outils égalitaristes, si je peux dire. La diversité va homogénéiser lentement, mais sûrement, l'univers culturel planétaire.
Mais permettez-moi de vous répondre en prenant les habits pour un instant d'un homme de la gauche républicaine.
Allez-y.
C'est formidable d'avoir cette position-là. Est-ce qu'il n'y a pas, néanmoins, certaines inégalités qui ne sont pas inscrites justement dans la diversité des talents et des potentiels, mais des inégalités illégitime qu'il est conséquemment légitime de déconstruire? Et si oui, comment distinguer entre la bonne égalité qu'on pourrait chercher à produire, par exemple l'égalité des chances, vous êtes un fils de famille modeste, vous êtes un fils de famille très riche, vous êtes un fils d'Abitibi, vous êtes un fils de Westmount, et pourtant on cherche à donner à tous un commun accès à la culture. Donc ça, je devine que cette égalité-là ne vous cause pas problème.
Aucun.
Alors, quel est le type d'égalitarisme qui vous cause problème?
L'égalitarisme dans ce que nous sommes en réalité, dans ce que l'on devient. L'égalité des chances est une chose, l'égalité et l'identique des individus en est une autre. Donc tout ce qui amène pour moi à une espèce de nivellement du paysage humain, du paysage mondial.
Donc un refus de l'excellence, un refus des singularités.
Oui, voilà, un refus des singularités, voilà, je crois peut-être la façon la plus éloquente de le formuler.
C'est qu'à l'école, je reprends le thème, il y a une différence fondamentale entre l'égalité des chances, ce dont nous sommes tous pour, évidemment, et l'égalité des résultats.
Bien sûr.
Comment ça se fait qu'il y a 100 jeunes joueurs de hockey, sur 100 jeunes joueurs de hockey, il y en a un qui va jouer professionnel? Sur 1000 jeunes joueurs de football, il y en a 2, 3, peut-être 4 qui vont jouer professionnel. L'école, c'est pareil. Malheureusement, je suis entraîné justement à Jean Rostand, le grand biologiste qui a écrit des pages extraordinaires sur la diversité humaine. Et cette diversité-là, elle est effectivement, il y a une tentative immense de faire en sorte qu'à l'école, tout le monde ressorte avec des bonnes notes. Donc, ce qui amène tout le monde nécessairement vers le bas. Si vous voulez que tout le monde, sur 100 élèves, on souhaiterait qu'il y ait 100 médecins. Malheureusement, sur 100 élèves, il y en a un qui sera médecin. C'est la vie. La vie est injuste à cet égard. Donc, que l'école veuille faire en sorte que les 100 élèves soient médecins, c'est illusoire. On perd tous notre temps. On fait perdre le temps des élèves. Et je trouve cet égalitarisme radical qui est le nôtre depuis quelques années est terrible pour l'école et est terrible pour les gens. Pas nécessairement pour les gens talentueux, mais c'est pas tout le talent. C'est pas tout la richesse. Faut être discipliné. Faut travailler fort pour réussir à l'école, pour être médecin, pour être avocat, ingénieur ou autre. Il faut travailler très fort pour écrire un livre. C'est des heures et des heures. Vous écrivez 500 pages pour en avoir et seulement 100 pages seront publiées. Mais ça, c'est la vie. Mais dans le dispositif progressiste, la vie n'existe pas. Elle est abolie.
Je ne sais plus qui disait que notre époque ne tolère aucune inégalité sauf celle des revenus. Alors là, l'égalitarisme maximal sur le plan identitaire et culturel, mais on tolère les pires inégalités en matière économique. Mais je vous relance sur cette question.
Bien qu'elle soit dénoncée, mais elle est dénoncée, c'est tout.
Oui, elle est dénoncée sur le mode de la pause morale.
Ouais. Oui, voilà. Oui.
Vous venez de poser une question qui me semble essentielle parce qu'elle, je crois qu'elle connecte notre débat aux enjeux politiques immédiats qui se posent à nous. On se demande quelquefois à travers quelles questions est-il possible de critiquer ce système politiquement correct, qui est cette hégémonie progressiste. Et vous avez tous les deux évoqué, pardonnez-moi, la question de l'école. Et la question de l'école est probablement celle qui, surtout dans une société comme la nôtre, qui n'a pas le sens du régalien, qui n'a pas, qui a un côté très consensuel au Québec, la question de l'école est peut-être une des questions qui peut connecter culture et politique, c'est-à-dire le sens de la transmission, c'est-à-dire le sens de l'excellence, c'est-à-dire les vocations qu'il s'agit d'encourager, oui ou non. Il y a eu une critique depuis plusieurs années au Québec d'une des modalités du progressisme, qui est le progressisme pédagogique, ce progressisme déconstructeur qui dit qu'il ne faut pas transmettre un patrimoine de civilisation à l'enfant, il faut plutôt imperméabiliser l'enfant contre une société toxique avec ses préjugés et ses stéréotypes. Il y a eu une critique aussi de cette pédagogie égalitariste au maximum qui abolissait la distinction entre le professeur, le maître donc, et les élèves. Il y a eu une critique de cette école qui presque industrialise ses diplômes et qui abolit le rapport personnel entre le professeur et ses étudiants. Est-ce que vous croyez que la question de l'école aujourd'hui, pour le Québec, peut-être pas dans d'autres sociétés, mais pour le Québec, est-ce que vous croyez que l'école est une de ces questions qui est susceptible de révéler l'angle, la part sombre, pour le dire ainsi, du politiquement correct?
Ah, tout à fait. L'école et la mainmise du politiquement correct et du progressiste sur l'école, c'est peut-être le meilleur exemple d'un échec patent qui est dénoncé pas seulement par des conservateurs, mais des gens de gauche,
des
gens de
gauche. Normand Baillargeon,
voilà,
les autres.
Et Dieu sait que ces gens-là, politiquement, ont pas beaucoup de choses en commun, mais ils s'entendent au moins sur une chose, c'est la faillite catastrophique de l'école québécoise. D'ailleurs, ces critiques-là sont entendus partout en Occident. Et à peu près par les mêmes mots, venant aussi de gens très, très, très éloignés politiquement. Donc, s'il y a un consensus, effectivement, contre le système actuel, c'est bel et bien l'école. Et, écoutez, il y a des gens, il y a des progressistes qui exigent presque un retour à la bonne vieille école d'antan avec la concentration sur la langue, les mathématiques, l'histoire et la science. Mais il y a une autre chose ici au Québec et qui est particulière et malheureusement, je dois dire que ces dirigeants n'ont pas été à la hauteur jusqu'à maintenant, c'est les indépendantistes québécois, les nationalistes québécois. Eux, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, heurtent de plein fouet le dispositif progressiste, la mainmise progressiste surtout.
Alors qu'ils rêvent de s'y dissoudre.
Alors qu'ils, oui, mais c'est ça qui est un petit peu contradictoire. C'est pour gagner les faveurs du régime progressiste, vous devez parler le même langage que lui. Alors là, c'est pour ça qu'on voit des indépendantistes multiculturalistes, alors que c'est, en tout cas, tant qu'à moi, tout à fait antinomique, parce que si on est indépendantiste au Québec, c'est pour faire en sorte que les Québécois puissent défendre et promouvoir leur identité, leur culture, alors que le progressiste annihiler la langue, la culture, ça n'existe pas pour lui. Donc, il y a comme une contradiction. C'est la raison pour laquelle, je termine là-dessus, l'indépendantisme québécois végète depuis plusieurs années.
Et je prends la peine, bien évidemment, de distinguer, je devine, entre, pour nos auditeurs, entre ce qu'on pourrait appeler un progressisme économique, donc la social-démocratie, oui, et le progressisme culturel et identitaire dont vous parlez.
Oui. Vous avez publié d'ailleurs L'Union fatale,
oui,
qui traite de ce sujet-là, qui est bien éloquent.
David Leroux, je vous ramène sur la question de l'école parce, oui, qu'elle me semble importante, oui, et elle me conduira à vous poser une autre question, mais d'abord avant tout la question de l'école. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'un levier politique possible, la question de l'école? Est-ce qu'elle révèle ce qu'on pourrait dire, vous avez parlé tantôt de la corruption de l'UE, morale en un sens de l'université, mm-hmm, est-ce qu'on pourrait dire que l'école plus globalement est le lieu où se révèle finalement une forme de caractère mutilant de l'anthropologie progressiste?
Ah ben oui, mon Dieu, oui, absolument. Je crois qu'on l'a bien vu il y a quelques semaines avec un petit reportage qui a circulé quelque peu sur les réseaux sociaux.
De Marie-Ève Tremblay, à propos, oui, de la liberté d'expression à l'UQAM.
Oui, absolument. C'était fascinant et effrayant à la fois de voir ce qui se faisait là, sous prétexte d'égalité, de safe space. Hein. Le safe space, c'est un espèce de concept très, très américain, je crois, qui désigne un endroit où tout le monde se sent bien en sécurité.
Donc, où on ne risque pas d'être contredit dans sa sensibilité.
Oui,
mais
voilà. Oui, voilà. Donc, certains groupuscules essaient de faire de l'université un endroit qui répond aux critères du safe space, et c'est absolument
alors je précise un peu pour nos auditeurs qui seraient pas familiers, la notion de safe space, c'est un endroit, donc c'est dans l'université, créer des espaces ou faire même de l'université un espace où on ne risque pas d'entendre un discours qui pourrait heurter certaines minorités victimaires autoproclamées.
On rappelle qu'on est à l'université là.
Oui, bien sûr.
Théoriquement, du moins.
Je vous dirais, cher Martin, ces choses ne sont possibles qu'à l'université.
Oui, tout à fait.
Alors, donc vous évoquiez ça. Je vous ramène aussi, juste une petite seconde, David Leroux, parce que, oui, l'émission se termine, on y reste une dizaine de minutes, 10-12 minutes environ. Vous avez écrit il y a un temps, j'aimerais vous amener sur cette question parce que ça vous met en lien aussi avec Martin Lemay. Vous avez écrit un très beau texte sur votre blog où vous parliez du Québec, on pourrait dire des années 90, du fin 80.
Oui, oui.
Vous aviez une vision très pleine de tendresse, une vision empathique, une vision assez douce finalement, oui, pour nos prédécesseurs. Puis là, on parle pas, on aurait pu en parler par ailleurs des pionniers éloignés de la Nouvelle-France. Là. Mm-hmm. On dit simplement le Québec d'il y a quelques décennies qu'on a appris à mépriser parce qu'on le trouve souvent simplet, on le trouve sans profondeur, sans diversité, sans ci, sans ça. Et donc, il y a dans votre propos, quand on vous lit quelque chose comme une tendresse envers les générations qui nous ont précédés, une forme d'empathie. Et on trouve ça aussi chez Martin Lemay, qui dans son très beau livre « À la défense de Duplessis », donc un livre qui témoigne d'une sensibilité à l'endroit des générations qui nous ont précédés et qui refuse d'avoir à leur endroit une pause de mépris. Donc, qui refuse d'entretenir un rapport de mépris hypercritique envers les générations qui nous ont précédés. Donc, je vous pose la question, mais je la poserai aussi à Martin Lemay. Est-ce que la première dissidence avec la rectitude politique aujourd'hui, ça ne consiste pas à refuser la vision hypercritique du passé, de la tradition, de la mémoire et de l'histoire qui nous a proposé? Est-ce que la condition de toutes les dissidences, ce n'est pas d'abord et avant tout de refuser la lecture de l'histoire pénitentielle, repentante, sous le signe de la haine de soi et de la haine des pères, pour reprendre la formule de Michel de Gégère, qu'il nous propose?
Oui, ben oui. Il s'agit en fait de se remettre à faire de la vraie histoire, c'est-à-dire d'arrêter de regarder le passé avec nos grilles d'analyse d'aujourd'hui, ce qui est un exercice absolument ridicule. Martin Lemay, vous l'avez fait dans votre livre sur Duplessis. C'est absolument fascinant de voir à quel point on a diabolisé un homme et une époque en la jugeant hors de son contexte, hein, à partir de notre regard de moderne. Et on fait la même chose avec Lionel Groulx, on fait la même chose avec, écoutez, avec plein de figures et plein de phénomènes, avec le clergé, l'importance du clergé au Québec, par exemple. On va diaboliser l'importance du clergé au Québec. On va dire que le clergé avait la main mise sur la société québécoise, que c'était étouffant, que c'était... Mais ma foi, on oublie... Il y a une dose d'humilité extrême qui nous manque aujourd'hui quand on fait ce genre d'analyse-là, c'est-à-dire si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et que nous sommes là et que nous disons ce que nous disons, c'est parce que ce qui a eu lieu a eu lieu. Alors soyons respectueux minimalement de ce qui a eu lieu parce que c'est ce qui nous a formés. C'est le trajet particulier du Québec d'hier qui a amené à ce que le Québec d'aujourd'hui soit ce qu'il est. Donc il y a ses qualités, il y a ses défauts. Oui, ça prend une dose d'humilité, il faut faire. Et l'histoire, la discipline historique, à mon sens, devrait être inhérent à la discipline historique, cette dose d'humilité-là. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'idéologues là-dedans aujourd'hui et de militants qui se donnent à cœur joie et qui vont biffer des pans complets de notre passé ou sans les biffer nécessairement, qui vont les teinter de leur jugement moderne et ils vont tout briser finalement. Ils vont nous empêcher de faire de l'histoire et d'avoir une véritable conscience historique.
Martin Lemay.
Mes grands-parents ont colonisé l'Abitibi. Ils ont élevé de grandes familles. Il y avait toujours de la nourriture sur la table. Ils étaient pauvres, mais il y avait toujours de la nourriture sur la table. C'est un phénomène nouveau que des enfants arrivent à l'école sans avoir mangé. Ne serait-ce que ce fait-là, moi, ça m'apporte beaucoup d'humilité. Je me dis, qui sommes-nous pour donner des leçons? Qui sommes-nous pour dire à ces gens-là qui ont travaillé fort dans des circonstances très difficiles que nous, aujourd'hui, nous sommes tellement meilleurs que nous pouvons les regarder de haut? Moi, je m'impose cette humilité et je crois que l'hypercritique, comme vous dites, un problème aujourd'hui dans le monde intellectuel, je crois, c'est le manque justement d'humilité. D'humilité face au sujet sur lequel on travaille et l'humilité également face au passé. Avoir un petit peu plus d'humilité aussi envers soi-même, notre capacité de comprendre comment les choses se sont produites, ça change totalement notre perspective sur le passé et même sur le présent. Donc, l'hypercritique, pour moi, est aussi un manque d'humilité envers la complexité infinie de l'homme, des choses humaines, du passé. Et je trouve... Et c'est pour ça aussi que la plupart des œuvres de ces gens-là, c'est rarement des succès de librairie, c'est rarement des bons films.
Vous
c'est
parlez
rarement
des historiens progressistes.
Oui, c'est ça. Les gens qui avancent plus une idéologie que d'autres choses, c'est rarement des grands succès.
Le succès populaire n'est pas là.
Le succès populaire n'est pas là, mais
l'Académie, si je peux dire, raffole de tout ça actuellement.
Oui, mais permettez-moi une petite parenthèse. Je sais que on parlait de l'école. Demain, un gouvernement... prend le pouvoir au Québec ou ailleurs, en France ou aux États-Unis, mais au Québec, il prend le pouvoir et dit « je vais mettre de l'ordre dans l'école ». C'est sa priorité. Imaginez-vous le travail que ça exige, un, réformer la formation des maîtres. 2, réformer le curriculum. C'est des années et des années de débats, de travail,
si
de propositions.
Jean Garon avait essayé de faire ça avec les États généraux de l'éducation en 1994-1995 et il avait été complètement lessivé par le système d'éducation.
Voilà.
Donc, malgré la volonté politique, il s'était brisé sur un système qui avait dit « Vous ne passerez pas », pour citer un film.
Oui. Nos passerons. Mais c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Donc, le Parti québécois a fait une réforme là, plus ou moins intéressante, même, n'ayons pas peur des mots, catastrophique. Bref, tantôt vous parliez, qui peut prendre le pouvoir aujourd'hui? Qui peut changer ça? Je repose moi aussi, je suis pas en train de dire que je suis désespéré devant la situation, mais je suis en train de me dire, et Dieu sait que je souhaite pas de malheur, mais je suis en train de me dire qu'il faut presque que le système s'effondre de lui-même pour qu'on puisse le rénover, parce que dans l'état actuel des choses, j'en suis à penser aujourd'hui qu'il est presque irréformable.
David Leroux?
La clé, peut-être, la clé réside dans la souveraineté populaire, je crois. C'est le pouvoir, le peuple a encore une possibilité, il a le pouvoir de voter. Il a le pouvoir de voter et le peuple n'est pas, je crois, disons, globalement contaminé par cette hégémonie qu'on dénonce depuis le début de l'émission. Cette hégémonie-là est assise dans des lieux de pouvoir très importants, dans les médias, dans l'école.
C'est que le progressiste n'a rien à faire du peuple. Le progressiste a son tribunal, ses médias, ses universités.
Oui.
Il n'a rien à faire. Donc, si vous faites élire quelqu'un...
On l'a vu, si je peux me permettre, par exemple, au moment du Brexit. Ça, c'était un révélateur absolument remarquable.
Oui.
C'est-à-dire, le peuple a été amené à se prononcer sur une question fondamentale, celle de la souveraineté britannique. Et lorsqu'il s'est prononcé, enfin, s'il avait voté pour le maintien dans l'Union européenne, on aurait célébré sa sagesse. Et puisqu'il a voté dans le mauvais sens, alors on s'est demandé, est-ce qu'on ne devrait pas réserver le vote aux jeunes? Est-ce qu'on ne devrait pas le réserver aux diplômés? Est-ce qu'on ne devrait pas le réserver aux gens qui, finalement, un peuple moralement certifié par l'attitude politique? Donc là, mais est-ce que ça ne donne pas raison, néanmoins, à David Leroux indirectement? C'est-à-dire que s'il y a une forme de résistance, elle est dans le peuple, ou pour le dire comme Orwell, les prolétaires sont le seul espoir?
Non, je suis tout à fait d'accord. Je partage cette analyse-là. Mm-hmm. La résistance, elle est dans le peuple, mais peuple... pas à l'heure actuelle, il peut se faire jouer des tours. Il y a 4 millions de Français qui ont voté à la primaire pour élire Revenons à M. Fillon en France. Et le voici pris dans des soubresauts avec la justice et tout ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que oui, la résistance du peuple, mais le progressiste, le système progressiste, le dispositif progressiste n'a rien à voir du peuple. S'il veut se débarrasser d'individus qu'il juge dangereux, il le fera.
Bon, s'il veut s'en débarrasser, oui, effectivement. Mais on peut toujours se demander donc jusqu'à quel point le peuple est imperméable à ce dispositif. Il y a une certaine imperméabilité, je crois, là, à quel degré il est, par exemple. Ça, je ne sais pas. Ça dépend de leur degré d'écœurement face à la situation actuelle, face à ce qu'ils vivent, face à leur réalité. Mais effectivement, vous dites, si le dispositif décide qu'il tranche la tête de la personne dont le peuple pourrait vouloir pour lequel le peuple pourrait vouloir voter, pour se sortir, pour casser le système un peu, ou disons le faire fissurer, eh bien, effectivement, s'il réussit par exemple par le judiciaire, qui est un réel pouvoir coercitif, là, on s'entend, on parle de réel pouvoir coercitif. Mmh. On parle pas seulement d'opinion là, et de d'influencer l'opinion des gens. Le judiciaire peut réellement trancher une tête. Là. Alors, s'il tranche la tête, si le dispositif décide qu'il tranche la tête du représentant ou de Trump, par exemple, on aurait pu voir ça aux États-Unis, là. On tranche la tête de Trump au sens figuré, bien sûr, avant l'élection. Eh bien, il n'y en a plus de Trump.
Mais je vous enlèverai le cas Trump parce que c'est un cas tellement polarisant. Je donnerai l'exemple du projet de loi 59 qu'on a réussi à éviter au Québec il y a quelques mois, qui entendait pénaliser, par exemple, les critiques de la religion, c'est-à-dire, rappelle, ceux qui ressentiraient une forme de propos haineux à l'endroit de certaines religions pourraient porter plainte devant la Commission des droits. Or, comment définir le propos haineux en question? Eh bien, c'était quelqu'un qui portait plainte parce qu'il se sentait d'une manière ou de l'autre invectivé ou insulté. Donc, dans les faits, ça donnait aux franges les plus radicales de chaque religion ou de chaque idéologie la possibilité de porter, de définir finalement ce qu'on peut dire ou non sur elle dans l'espace public. Donc, est-ce que la tentation de pénaliser ou de judiciariser le débat public ne va pas bien au-delà des cas dont on parle en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté quelquefois de limiter juridiquement les termes du débat public? Donc, non seulement moralement, mais puisque ça ne fonctionne plus toujours, il y a la tentation aussi d'un encadrement juridique beaucoup plus marqué de ce qui peut être débattu ou non en société.
Merci. Merci de personnellement, je l'avais complètement oublié. Alors que le projet de loi 59 a été retiré, c'est la quintessence du dispositif progressiste. Il dit, vous avez le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais si vous le dites, voici de la façon dont vous devez le dire. Et ça, malheureusement, vous parliez tout à l'heure de la population, et je suis d'accord avec vous, j'insiste là-dessus. Malheureusement, quelques individus ont dénoncé ce projet de loi-là. Quelques individus, je pense que je pourrais les compter sur les doigts de ma main. Mais très peu ceux dont c'est le métier, dont le métier s'appuie sur la liberté d'expression, ont été sur le dépôt de ce projet de loi-là pratiquement inaudible à part 10 ou 12 personnes maximum. Et ça, j'étais très, très, très inquiet qu'il n'y ait pas eu une plus grande mobilisation, je dirais, face aux dangers qui étaient cachés par ce projet de loi-là. Le gouvernement l'a retiré. C'est pas exclu qu'il le ramène à l'ordre du jour à un moment donné.
Ça demeure dans les cartons de la Commission des droits.
La Commission des droits, on pourrait faire une émission là-dessus, Monsieur Bocoté, vous le savez. Mais mais le projet de loi 59, c'est la quintessence du dispositif progressiste qui cherche à se protéger.
Il nous reste 2 minutes à peine. Je cherche à voir dans les circonstances, y a-t-il des fissures? On en a parlé du sentiment populaire, mais y a-t-il des fissures réelles ou devons-nous nous attendre dans les années à venir à quelque chose comme un renforcement de ce politiquement correct dans l'université, dans les médias, en politique? Et surtout, quel est selon vous le prix à payer pour le défier? Parce que c'est quand même une question importante, c'est-à-dire le propre d'un régime comme celui-là, c'est lorsqu'on le défie, on en paie le prix. Ça peut être le prix de la réputation, ça peut être la ruine économique, il y a plusieurs choses. Quel est le prix à payer pour défier le politiquement correct?
Le prix est énorme. Le prix est énorme. Vous l'avez dit, c'est une réputation, c'est l'économie. Tel individu va se faire refuser ses livres. Tel individu ne sera pas embauché à l'université. Tel individu n'aura pas sa subvention pour son film. Tout ça va loin, là. Et moi, je crois que le système va...
quitte à transformer en paria quelquefois.
Oui, tout à fait, sur les réputations. Quand les médias se mettent sur le dos d'un individu, c'est pas drôle à vivre, là. C'est difficile, là. C'est très, très... Faut l'avoir vécu pour savoir exactement ce que c'est. C'est très difficile. Et moi, je ne vois que dans l'avenir, le système se radicalise encore plus parce qu'il sait, la seule solution, David le disait, c'est le peuple. Donc, si le peuple commence à régimber, le système, en réaction à ça, va se radicaliser de plus en plus.
Je crois que le système fissure, certainement. Et oui, il y a un prix à payer. Je suis absolument d'accord avec Martin à ce sujet-là. Et le prix peut être très élevé. Par contre, il faut être capable de voir chaque petite fissure se faire. Et en tant qu'intellectuel, je crois qu'il faut être capable de mettre notre doigt lentement dans les fissures et aider à la grandir.
Donc, chers amis, merci infiniment pour votre présence ici aujourd'hui. Martin Lemay, David Leroux, c'était un grand plaisir, une discussion sur la rectitude politique au Québec et ailleurs. Chers amis, à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des idées.